Bonsoir et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris dans une nouvelle itération de nos cartes blanches des troisièmes mardis de chaque mois qui vise à ouvrir plus largement au-delà des thématiques stricto sensu astrophysiques, mais qui nous intéressent parce que si on s'intéresse à tout l'univers, on peut s'intéresser à d'autres choses. Et donc c'est un vrai plaisir d'accueillir ce soir Marc-André Solos parmi nous, et je vais laisser quelques gens aux 12 en dire un peu plus et introduire l'orateur qu'il a lui-même choisi.
Bien, bonsoir à tous, merci François. Donc, d'abord, la tradition veut que nous introduisions, nous parlions, nous évoquions la conférence qui aura donc lieu le 18 avril. Alors les mois impairs, ce sont des cartes blanches générales. Les mois pairs, c'est l'Union rationaliste, avec donc Daniel Kuhn, qui en est le secrétaire général, qui l'organise avec l'IAP. Et le thème du 18 avril, ce sera aussi un troisième mardi du mois, c'est universalisme et tolérance. Alors, ce sera un duo qui sera donc modéré par un journaliste, Jacques Munier, qui collabore à France Culture au Chemin de la Connaissance, et donc il y a donc deux grandes personnalités, Jean-Louis Bianco, qui fut secrétaire général de la présidence de la République, puis ministre, qui a été, mais il vient, je crois, ici comme ex-président de l'Observatoire de la laïcité, et moi je suis très content parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui pendant 2 ans, dans les années 90, toi tu n'étais pas né. Et puis M. Rachid Benzine, qui est donc islamologue, politologue, enseignant, romancier, qui est une figure de l'islam libéral. Donc ce sera une conversation entre les deux, modérée par un journaliste. Alors aujourd'hui c'est un autre format. Moi je suis très heureux d'accueillir Marc-André Solos, qui va nous parler des microbes maîtres du monde. Alors Marc-André sort d'une école normale supérieure, voilà, qui est commune par exemple avec mon petit camarade là-bas, Marc. Et puis il a été également à l'École nationale des eaux et forêts. C'est un biologiste. Il est spécialiste de la symbiose dans les domaines de l'évolution et de l'écologie. Il est depuis 2013 professeur au Muséum national d'histoire naturelle, où il dirige l'équipe interaction et évolution végétale et fongique à l'Institut de systématique, évolution et biodiversité. Il est professeur aussi à l'université de Gdansk et à l'université de Kunming. Gdansk, c'est en Pologne, et Kunming, c'est en Chine. Alors, on va dire que c'est un conférencier demandé, tu fais de nombreuses émissions aussi à la radio. Et puis je vais citer les trois, aussi de l'Académie d'agriculture de France et de l'Institut universitaire de France. Alors je vais citer les trois livres, il y en a beaucoup plus, mais il y en a un qui correspond à ce que tu vas dire, je pense, dans un instant, c'est « Jamais seuls ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations », qui a été publié en 2017 à Actes Sud. Et puis plus récemment, il y a deux livres de 2021, « L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent » et « Petites histoires naturelles, chroniques du vivant ». Merci Marc-André de nous faire le plaisir de nous enseigner, nous instruire sur les microbes.
Mais non, mais c'est moi qui vous remercie d'abord, Jean, de ton invitation, et puis aussi qui vous remercie d'être venu ce soir. Alors, mon propos n'est pas très astrophysique. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de bactéries sur Terre que d'étoiles dans l'univers, puisque je crois que c'est 10 puissance 31 contre 10 puissance 23.
Observable, l'univers, ah oui. Parce que s'il est infini...
Alors, si on commence à argumenter sur des choses qu'on ne voit pas...
Voilà.
Bon, en même temps, je comprends tout à fait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, puisque ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on ne voit pas, ou tout au moins, c'est ce qu'on ne voit pas en soi, mais dont on voit les conséquences, puisqu'en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, et c'est en fait effectivement en lien avec le tout premier livre que j'avais publié, c'est qu'en réalité, on ne fait pas de plantes, pas d'animaux et pas de civilisation sans microbes. Alors on va commencer par les plantes, à tout seigneur, tout honneur, parce que pour le coup, les plantes, eh bien, c'est quand même des choses qui nous entourent et qui représentent en masse, au moins dans les écosystèmes terrestres, bien plus que le monde animal. Même si on a tendance à s'intéresser beaucoup aux animaux, regardez bien autour de vous, vous vivez dans un monde qui est en fait essentiellement végétal. Or, les plantes sont vertes, et elles sont vertes comme des bactéries. Ça, c'est la toute première chose, c'est que derrière une plante et sa verdeur, il y a de la chlorophylle. Cette chlorophylle, elle n'est pas située n'importe où dans les cellules, vous la trouvez à l'intérieur des cellules dans des corpuscules verts qui sont les chloroplastes. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les chloroplastes, et ils se souviennent de leur cours de SVT ou de sciences naturelles, ou peut-être même d'histoire naturelle, où le chloroplaste est bien défini comme étant l'usine photosynthétique. La chlorophylle capte une partie des radiations solaires et elle est capable de transformer, enfin, elle amène cette énergie, elle permet le convoiement de cette énergie vers des centres réactionnels qui convertissent, pour faire simple, le CO2 en sucre. En réalité, les chloroplastes sont à la base de la capacité de la plante à fabriquer son propre sucre. Or, ce que l'on sait de ces chloroplastes, aujourd'hui, c'est que ce sont des bactéries intracellulaires, plus exactement des bactéries appartenant au groupe des cyanobactéries. La chose a été très très tôt au 19e envisagée, car on avait aperçu que, on avait vu au microscope que les chloroplastes se forment toujours par division d'un chloroplaste préexistant, ils ne se néoforment jamais. Et donc, dès la fin des années 80 du 19e siècle, il avait été proposé que les chloroplastes soient des bactéries. Ça a mis du temps à être démontré, et d'ailleurs, même entre-temps, il y a des gens qui ont montré que ce n'était pas le cas. Bon, puis finalement, on a remontré que c'était le cas, notamment sur une caractéristique toute bête. Il y a de l'ADN dans les chloroplastes, il y a des gènes, et ces gènes ressemblent beaucoup à des gènes de bactéries que vous avez sur l'écran à votre droite, des bactéries photosynthétiques qui vivent libres dans la nature, les cyanobactéries. Et donc, finalement, les plantes ont attrapé la photosynthèse comme d'autres attrapent la varicelle en l'attrapant en microbes. Enfin, les ancêtres des plantes ont attrapé la photosynthèse en attrapant des bactéries qui sont devenues des habitants permanents de la cellule, qui s'y multiplient et qui sont héritées de génération cellulaire en génération cellulaire, de génération de plantes en génération de plantes. Mais, bel et bien, on peut dire que si la plante est verte et autotrophe, c'est une histoire de bactéries héritables. D'ailleurs, les cyanobactéries peignent nos paysages. Parce que les cyanobactéries libres, c'est elles qui expliquent la patine un peu grise, gris-bleue, et éventuellement même les pissures que l'on voit sur les rochers un petit peu colorés, ou la patine de nos bâtiments quand ils n'ont pas été fraîchement ravalés. Il y a longtemps que ce n'est plus de la pollution à Paris. Et donc, les cyanobactéries colorent le paysage parce que c'est elles qui colorent la surface des roches pour celles qui sont libres, et les végétaux pour celles qui y vivent, et qui amènent aux végétaux la capacité de se nourrir seul. Donc, finalement, derrière quelque chose d'aussi essentiel que la photosynthèse, se cache déjà une présence, j'allais dire, intime, vraiment au cœur de la cellule de la plante. Mais, alors vous allez me dire, bon, d'accord, voilà une histoire quand même assez bien connue, mais une plante reste une plante. Non. En fait, une plante est un immeuble à microbes. Et en particulier, au sous-sol, il y a des champignons qui continuent à remplir la fonction que je définissais, qui est la fonction alimentaire, en aidant la plante à aller chercher des choses dans le sol. Alors vous allez me dire, oui, c'est nouveau ça, les plantes ne se nourrissent pas. Ce n'est pas nouveau, ça a 400 millions d'années, mais les plantes, effectivement, ne se nourrissent pas dans le sol. Elles y abritent des partenaires. J'ai mis à l'écran des pins. Alors les pins, vous savez, ça pousse partout. Chez nous, ça fait partie des premiers arbres qui reviennent peupler les cultures abandonnées. Les pins, on les trouve dans l'hémisphère nord, dans la zone qui est en vert ici. Et quand nos anciens sont arrivés avec des bateaux en bois pour aller, alors paraît-il, évangéliser, en réalité, ils ont surtout fait du commerce, je crois, et de la politique, mais quand ils sont arrivés évangéliser l'Amérique du Sud et l'Afrique, ils sont arrivés avec des bateaux en bois qui souffraient beaucoup de la traversée. Ils se sont trouvés devoir réparer ces bateaux, et pour ça le pin c'est idéal, ça pousse vite, mais ça a une fibre très droite, pleine de résine, c'est vraiment le bois idéal. Donc ils ont planté des graines, et comme ça pousse partout, ils se sont entendus, est-ce que ça pousse? Ça n'a pas poussé. Alors ils ont été pragmatiques, hein. Ils ont emmené des pins déjà enracinés dans un peu de terre, ils les ont transplantés, et là, effectivement, Les pins ont continué à grandir et ont donné des forêts qui, d'ailleurs, dans ces régions-là, sont devenues invasives. Des forêts de pins qui menacent aujourd'hui la biodiversité locale. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, quand j'amène un pin enraciné, il peut continuer à grandir, mais si j'amène une graine, ce n'est pas le cas. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, dans ce sol, il y a des champignons. Vous les voyez d'ailleurs, là, ils sont très abondants et ils viennent s'associer aux racines des plantes. Il y a des champignons qui sont nécessaires à la croissance des pins. Il se trouve que ceux qui sont nécessaires à la croissance des pins n'étaient pas présents dans les zones tropicales. Et donc, là, on révèle quelque chose qu'on ne voit jamais chez nous, puisque ces champignons chez nous sont partout. C'est que sans champignons, ça ne pousse pas. Et une fois de plus, alors d'autres cas diront que la nature est bien faite, mais en réalité, les partenaires ayant besoin l'un de l'autre, ils sont toujours en compagnie l'un de l'autre. L'histoire est que chez nous, ça ne se voit pas, et on peut penser que les plantes se nourrissent toutes seules dans le sol, mais en réalité, il y a toujours un champignon sur les racines. Alors, cette structure mixte formée par la racine gancée de champignons, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Voilà la mycorhize typique des arbres de nos forêts, où on voit très bien le champignon extérieurement. Alors, c'est sur ces mycorhizes en particulier que travaillent mes équipes de recherche de par le monde, à essayer de comprendre leur rôle écologique et leur fonctionnement. Mais quoi qu'il en soit, dans nos régions, donc, les arbres ont des champignons sur les racines que vous connaissez bien, car ce sont les champignons forestiers, les amanites, les bolets, les russules, les lactaires, les truffes aussi. Pour faire des truffes, il faut cultiver un arbre. C'est parce qu'effectivement, non seulement les arbres dépendent de ces champignons, mais ces champignons-là dépendent des arbres. L'un dépend de l'autre dans une dépendance trophique réciproque, où la plante donne les produits de la photosynthèse aux champignons et quelques vitamines, en échange d'eau et de sels minéraux que le champignon va collecter dans le sol de toutes les ramifications de ces parties filamenteuses qui peuvent coloniser très loin de la racine le sol, et en particulier aller chercher des éléments peu mobiles comme le fer ou le phosphore. Bien. Alors ça fait de la plante d'ailleurs un trader, hein, puisque en gros la plante, elle négocie contre des sucres qu'elle a obtenus de ses cyanobactéries, des sels minéraux, qu'elle va utiliser notamment pour négocier du sucre aux cyanobactéries dans ses feuilles. Vous voyez que ce que vous appelez une plante est un intermédiaire entre deux microbes qui accomplissent une partie de la nutrition du consortium. En tout cas, vous allez me dire, bon, bah oui, alors les arbres de nos régions ont besoin de champignons, mais qu'en est-il des non-arbres de nos régions et qu'en est-il des plantes des forêts tropicales? En fait, il y a aussi des mycorhizes, il y a aussi des associations entre des champignons du sol et les racines, mais c'est moins visible. La plupart des choses, alors là, j'ai pris une plante qui n'est ni tempérée, puisqu'elle est d'origine tropicale, le maïs, ni un arbre, et 9 dixièmes du temps, quand vous regardez les racines, ce que vous appelez des racines ne sont pas des racines, ce sont bel et bien des mycorhizes. Vous ne voyez pas le champignon. C'est beaucoup moins beau que dans les images précédentes où on ne pouvait pas louper le champignon autour de la racine. Mais quand on passe au microscope, on voit très bien le champignon qui court entre les cellules et d'ailleurs pénètre dans certaines d'entre elles en se ramifiant finement en une surface d'échange où se réalise l'échange habituel. Alors, ce n'est pas les mêmes champignons pour les plantes herbacées et ce n'est pas les mêmes champignons pour les plantes tropicales. Du coup, ça n'a pas fait l'affaire des premiers pins qu'on a introduits dans les régions tropicales, mais la règle générale est là. 90% des plantes ne se nourrissent pas sans champignons. Et voilà. Et ça, une fois de plus, comme ça marche la plupart du temps, il faut vraiment un sol stérile ou changer de région pour s'apercevoir que cette dépendance est vitale. Alors, il n'y a pas que la nourriture dans l'existence d'une plante, il y a aussi le risque de se faire boulotter, parce que pour le coup, la plante, ben, elle ne bouge pas, et donc elle ne peut pas fuir. Et les champignons, notamment ceux des racines, mais pas que, mais je vais continuer sur les racines, assurent une protection. Ils assurent une protection ben, d'abord physique, hein, quand vous avez une racine qui est complètement gancée de champignons, ben, pour le coup, ça protège des... à la fois des toxines du sol et des attaques. Et d'ailleurs, beaucoup de plantes calcicoles, c'est-à-dire qui supportent le calcium dans le sol et qui poussent sur sol calcaire, ne sont pas calcicoles sans leurs champignons. Les pins, par exemple, si vous leur... qui poussent très bien sur sol calcaire, hein, ils poussent partout, eh bien les pins, si vous leur enlevez leurs champignons, ils ne supportent pas le calcium du sol, alors qu'ils poussent normalement en sol calcaire. Ça veut bien dire que c'est le champignon qui fait le travail. Mais moi, je voudrais vous parler d'une protection qui n'est pas qu'une protection des racines, que ce soit contre les maladies ou les toxines du sol. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de quelque chose qui va vous paraître sans doute un tour de magie, c'est d'une protection au niveau des feuilles. On va dans les feuilles, on va prendre des plants de tabac. Alors, des plants de tabac modernes, ces lignées élites, vous savez, qui sont génétiquement homogènes, et on va élever ces tabacs avec ou sans champignons mycorhiziens, non mycorhizés ou mycorhizés, et dans des sols quand même assez riches pour que même sans mycorhize, la plante se développe et ait suffisamment de ressources en azote et en phosphate. ce que vous allez voir, ce n'est pas juste un biais lié à la nutrition. Hein. Ce point est contrôlé. Donc, on étudie nos champignons et à un moment, on introduit en deux points de la feuille un champignon que vous connaissez peut-être comme la pourriture noble, quand il attaque les grains de raisin, mais qui est avant tout ce qu'on appelle agronomiquement la pourriture grise, parce que ça fait grisonner, voire noircir les feuilles. Et ce champignon n'est pas un parasite du tabac. Donc tout devrait bien se passer. Et d'ailleurs, sur les plantes mycorhizées, tout se passe bien. La nécrose est très limitée. Elle est moins limitée et la maladie flambe sur les plantes non mycorhizées. Et quand on fait des statistiques sur des plantes qui sont, je le répète, génétiquement identiques, on s'aperçoit qu'il y a plus de 2,5 fois plus de dégâts sur les plantes non mycorhizées. Toutes choses étant relativement égales par ailleurs. Alors, en fait, quand on regarde l'accumulation des molécules de défense, alors juste un point technique, là on regarde par exemple une enzyme qui détruit les protéines, donc une protéase, qui sert en fait à détruire les enzymes du champignon par lesquelles il attaque la feuille et commence à la digérer. Donc c'est une enzyme anti-enzyme, quoi. Bon, mais oublions, ce qu'on voit c'est que le système immunitaire répond plus fort et plus vite quand la plante est mycorhizée que quand elle n'est pas mycorhizée. Et ça, ça appelle deux conclusions ou deux commentaires. Le premier, c'est que vous voyez que la pleine efficacité du système immunitaire n'est atteinte que quand la plante s'est connectée à ses champignons. Mais ça, c'est ce qui arrive tout le temps quand elle germe. Hein. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'ordinaire. Et d'autre part, on peut se demander comment ça se fait qu'on ait un effet aussi systémique. J'entre pas dans le détail, mais on sait aujourd'hui qu'en fait, les partenaires s'échangent de très nombreuses petites protéines régulatrices qui passent de l'un dans l'autre et qui modifient complètement l'expression des gènes, le fonctionnement de certaines protéines, le métabolisme. Et en fait, il y a une reprogrammation qui est faite d'un bombardement réciproque entre les propriétaires, entre les partenaires de plusieurs dizaines, si ce n'est quelques centaines, de petits peptides régulateurs. C'est une autre histoire dans le détail. C'est sans doute ce qui explique, bien qu'il ne soit pas spécifiquement expliqué celui-là, un tel effet, mais vous voyez que finalement, l'efficacité du système immunitaire, au-delà de la protection directe par la présence du champignon, l'efficacité du système immunitaire dépend de la présence de ces champignons. Mais ce n'est pas tout. Il y a, alors là, vous sentez d'ailleurs au passage qu'on est un peu sur le développement du système immunitaire. Il se développe bien quand il y a le champignon. Et je voudrais insister sur ces aspects de développement en vous parlant de la forme des arbres. Depuis tout à l'heure, je vous montre cette image parce que je suis certain qu'elle ne vous scandalise pas. Vous devez trouver que les jacinthes, enfin les endymions, sont jolis, mais les arbres ne vous arrachent pas les yeux. Ce sont des arbres forestiers normaux. Oui, quoi de plus normal qu'un arbre avec un tronc et puis ce que l'on appelle un houppier, où il y a toutes les branches et les feuilles. En fait, c'est complètement anormal. Car quand il a été jeune, l'arbre, c'était un buisson. Et ça ne grandit pas comme un parapluie, hein, ça grandit par le haut, un arbre. Donc ce buisson était de plus en plus grand, et quand à la fin il fait un tronc qui fait, je ne sais pas moi, 80 cm de diamètre, eh bien, il devrait encore y avoir les branches autour, même si elles n'ont pas grandi, les branches qu'il a eues quand il était un arbuste. Où sont passées les branches? Alors, disons-le, quand il n'y a pas de concurrence pour la lumière, d'ailleurs, ces branches restent et se multiplient. Donc, quand je vois un tronc tout lisse, il y a un truc qui manque. Alors, c'est toujours difficile en science de repérer ce qui manque. Et ça explique que ce dont je vais vous parler, il y a très peu de recherches dessus, hein. Parce que les gens cherchent toujours à comprendre ce qu'ils voient et pas ce qu'ils ne voient pas. Alors que souvent, les absences sont très heuristiques. Mais en tout cas, je vous propose maintenant de regarder une histoire qui va vous en raconter, vous en rappeler une autre, je suis sûr. Je vous emmène en Bretagne, dans mon île, à Belle-Île-en-Mer. Alors là, on a introduit au moment du remembrement des cupressus et des pins, Pinus insignis, de Californie. Pour faire des haies. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en plus, ils ne tiennent pas le vent. Enfin, c'est une idée, voilà. Et pour pousser au remembrement, on en donnait aux paysans qui se disaient, bah, tiens, j'en ai trop pour mes haies, je vais faire un bois, je vais planter une forêt et je vendrai le bois. Alors, regardez le désastre. Là, les branches basses ont persisté. Et alors, elles sont moribondes, parce qu'il n'y a pas de lumière ou mortes, mais elles sont toujours là. Vous voyez, quand une naissance est introduite, le processus d'élagage, voilà le mot lâché, qui enlève les branches basses, ne s'opère pas. Et ça, ça nous donne l'idée que peut-être certains microbes assez spécifiques des espèces à élaguer sont à l'opération. Ben oui, c'est bien ça. Hein. En fait, si les troncs sont lisses, c'est qu'il y a des champignons, voire des bactéries, qui attaquent et dévorent ces branches. Ce sont soit des parasites de faiblesse, soif de simples décomposeurs. Et il se trouve que décomposer une branche en l'air, qui est quand même quelque chose d'assez sec, hein, c'est pas comme un morceau de bois au sol, il y a de l'eau dans le sol. C'est assez difficile et c'est le fait de spécialistes. Et on n'a pas les spécialistes quand on introduit une espèce. C'est pareil quand on introduit l'épicéa en plaine, il s'élague très mal, les forestiers sont obligés de faire ça à la main. Alors, cet élagage, pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est plus que de la forme. Il faut bien comprendre que quand la petite branche a été mangée, les champignons qui font ça sont incapables de rentrer dans le bois du cœur du tronc. Là, il n'y a pas assez d'oxygène pour eux. Donc, ils ont sporulé entre-temps, ils vont vivre ailleurs. Et la cicatrice obtenue se referme petit à petit avec la croissance du tronc. Et quand elle est parfaitement refermée, ensuite, sur cette branche élaguée, ce sera une belle fibre régulière qui va se développer avec des cernes qui assureront un maintien, un port beaucoup plus rigide, beaucoup plus résistant au vent que si l'arbre, dans sa croissance, englobe des branches mortes ou vives. Là, ça fait des discontinuités et ça fragilise par rapport au vent. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est à la fois phytosanitaire, puisque maintenant l'écorce recouvre tout le tronc, il n'y a plus de point d'entrée de maladie, mais en plus, c'est quelque chose qui assure un port dressé plus efficace. Et oui, les arbres sont des sculptures de champignons. Donc, voilà encore un point du développement, la forme, qui est quelque chose qui implique la présence de microbes. Alors, dans cette partie, mes microbes étaient souvent des champignons. Je vous promets qu'il y aura autre chose que des champignons dans la suite. Et en tout cas, je pense que c'est clair que dans toutes ses fonctions, la plante n'est pas complètement dépendante, mais largement assistée de microbes. Alors, arrivé à ce point, il est temps de passer aux animaux. Vous allez me dire qu'il est normal qu'une plante, qui est un organisme fixé, finisse colonisée par des microbes qui l'entourent et qui la gagnent depuis le sol ou en tombant sur ses feuilles. Alors, ça peut vous paraître une caractéristique végétale, mais en fait, ça n'en est pas une du tout. De ce point de vue-là, la plante et l'animal sont fichus de la même façon. Je vous propose de regarder ça avec d'abord un exemple de microbe qui aide à digérer. Et alors, je vous ai choisi, on parlera un peu de l'homme après, vous verrez qu'il ne fait pas exception à la règle, mais là, je vous ai choisi quand même quelque chose d'assez percutant, un animal paroxystique quant à la dépendance de la digestion aux microbes, la vache. Alors, les vaches ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est de passer leur temps à regarder passer les trains ou les caméramans. Deuxièmement, elles passent 10 heures par jour à ruminer, 30 000 mouvements de mastication par jour qui nous valent notamment la joue de bœuf, bon, qui est souvent une joue de vache. Hein. Bon. C'est ce muscle qu'on mange quand on mange de la joue de bœuf. Donc elles ruminent. Pendant ce temps-là, elles ne font rien. Elles ont un gros ventre. Je ne sais pas pourquoi j'ai des larcènes comme ça. C'est le film qui a déclenché ça. On peut supprimer le son du film tout le temps. Tous les films, je fais le son. C'est un animal qui sent très fort, la vache, même quand il est bien nettoyé, qui a un gros ventre. Ça n'a pas un port de lévrier, hein, quand même. Et ça fait des bouses qui ont la caractéristique de contenir énormément de petits morceaux d'herbe. Et quand on colore ces morceaux d'herbe avec des colorants qui colorent la cellulose en rose ou la lignine en vert, on s'aperçoit que ces deux composants-là sont encore dans les fragments végétaux. Alors, la lignine et la cellulose, donc vous voyez qu'elles persistent dans les fragments végétaux qu'on trouve dans les bouses, c'est quand même 90% de la biomasse végétale, donc ça veut dire que sèche. Ça veut dire qu'en fait, la vache ne digère pas les tissus végétaux. Et ça, c'est bizarre parce que quand même, c'est vrai qu'elle en mange beaucoup. Alors, la solution, elle vient en fait de l'étude du tube digestif. La matière végétale qu'absorbe la vache ne tombe pas dans le tube digestif directement. Ça tombe d'abord dans une énorme poche qui fait 150 à 250 litres et qu'on appelle le rumen. C'est le nom qu'on donne aussi au liquide plein d'herbes qu'il y a dedans. Liquide plein d'herbes à l'abri de l'air dans lequel se développent énormément de microbes, on va y venir. Ce rumen avec ses 150 à 250 litres, il explique le volume de l'animal. Hein. Et la fermentation qui s'y produit émet des gaz fermentaires qui expliquent l'odeur de l'animal. Voilà les choses déjà expliquées. Et donc effectivement, il y a là non seulement de très nombreuses bactéries, ce sont les points sur ce film, mais également de plus grosses cellules de ce qu'on appelle les protozoaires, des animaux qui mangent des bactéries. Et puis aussi, si on avait vraiment pris un morceau d'herbe, on aurait peut-être vu, on aurait sans doute vu des champignons. Il y a là plusieurs millions de milliards de cellules microbiennes qui prolifèrent, nourries par la vache, et pas seulement. Nourries par la vache, c'est encore plus compliqué. Ce mouvement de rumination que vous observez ici, c'est un mouvement qui va détruire, fragmenter les végétaux et les rendre plus accessibles aux microbes. Mais regardez bien ce qui va se passer quand l'animal avale. Il avale et il régurgite. En réalité, ce qu'il rumine, ce n'est pas de l'herbe qu'il vient de prendre, c'est le contenu de son rumen qu'il prépare pour les microbes en le fragmentant en petits morceaux, et aussi de deux autres façons. La première, c'est que la salive contient, vous le savez, des carbonates, c'est ça qui dépose du tartre sur les dents. C'est un antiacide, c'est un pouvoir tampon qui va empêcher une dérive acide du contenu du rumen qui pourrait tuer les microbes qui s'y trouvent. La fermentation produit des produits acides, mais la mastication, la rumination permet de limiter la dérive du pH et d'empêcher l'acidification, donc de maintenir le rumen vivable pour ses habitants qui n'aiment pas les pH trop bas. La deuxième chose, c'est que la vache, à la différence de nous-mêmes, n'émet pas ses déchets azotés et phosphatés dans son urine. Elle émet de l'urine parce qu'elle a des déchets à évacuer, mais elle n'y met ni son azote ni son phosphate, elle le sécrète dans la salive. Et donc, elle a enduit les tissus végétaux, non seulement d'un antiacide, mais aussi d'azote et de phosphate, qui sont ses déchets, mais qui sont autant d'engrais pour les microbes du rumen. Autant dire que cette action-là est une action qui nourrit les microbes, qui prépare les aliments végétaux pour les microbes, et dans tout ça, notre vache n'a toujours pas mangé. En fait, elle digère des microbes. Elle digère des microbes parce qu'à la sortie du rumen, il y a un filtre qui permet à des petites particules de partir d'abord vers l'estomac, puis vers l'intestin. Et là, ce qui s'opère, c'est une digestion de microbes. Elle écume la prolifération microbienne et c'est ça qu'elle digère. Alors, elle se nourrit aussi, il faut dire, un certain nombre de produits fermentaires qui sortent par diffusion gazeuse du rumen, mais essentiellement, la vache, elle, ce qu'elle digère, c'est des microbes. Et du coup, si une particule végétale a franchi le crible, elle ne sera pas du tout modifiée par le passage dans le reste du tube digestif qui ne possède pas les enzymes capables d'attaquer la matière végétale. Donc, vous sentez ici que la nutrition de la vache repose complètement sur des microbes qu'elle élève dans son rumen et qu'elle digère. Là, la dépendance alimentaire est forte, et pour le coup, c'est plus qu'une histoire théorique. Cela nous pose la question de savoir si les vaches sont vraiment herbivores, puisque vous avez vu qu'elles se nourrissent de microbes qui mangent des végétaux, voire de microbes, les gros là, qui couraient partout, de microbes qui mangent des microbes qui mangent des végétaux. C'est quelque chose entre un carnivore d'ordre 1 et un carnivore d'ordre 2, en fait, hein, si on le regarde bien. Et ça jette un jour très particulier sur la pratique des farines animales, qu'on a beaucoup décrit comme étant contre nature, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Manger des protéines animales pour une vache, c'est quelque chose qu'elle fait occasionnellement, quand elle mange son placenta après la naissance des petits, ou quand, alors elle ne peut pas courir hein, avec son rumen, mais quand elle, occasionnellement, est capable de me croquer un oisillon ou un petit rongeur qui ne court pas trop vite. Oui, elles le font, ça, les vaches. Opportunément. Donc, les farines animales ne sont pas étrangères au régime de l'animal. Vous savez qu'il y a eu un scandale de la vache folle lié à la transmission de prions par les farines animales. Mais les farines animales, on les utilise depuis 1840. Le scandale de la vache folle, c'est un scandale du libéralisme. C'est quand, en Angleterre, certains ont voulu baisser les températures de chauffage qu'on a laisser passer les prions qui étaient habituellement détruits par la chaleur. En d'autres termes, il ne faut pas confondre un scandale du libéralisme et une bonne occasion de recycler des protéines dans la chaîne alimentaire. Moi, je viens d'un coin où on avait un cochon à qui on donnait les eaux de vaisselle et tous les restes, et il était très bon à manger quand on l'abattait. Ce que je veux dire, c'est que, quelque part, ça donne du sens aux farines animales qui sont guère que le fait que la vache, de toute façon, elle nourrit des choses qui sont éventuellement des carnivores de microbes, et elle est elle-même carnivore de microbes. Et donc, ce n'est pas scandaleux du tout, techniquement. D'ailleurs, la vache ne se gêne pas pour manger son placenta à la naissance. Alors, les microbes peuvent aussi protéger les animaux. Et je vous propose maintenant de faire un tour, non plus par la vache, mais de prendre un modèle qui est la souris. Parce que pour les souris, quant aux souris, on a des souris qu'on élève sans microbes. C'est ce qu'on appelle les souris axéniques, A privé de xénos, les étrangers. Et vous allez voir ce que c'est quand on n'a pas d'étrangers. Ça ne peut pas marcher. Alors, dans ces bulles stériles qui sont sous pression, vous avez ici les gants de manipulation qui, bien sûr, quand on ne met pas les mains dedans, font protrusion à l'extérieur, puisque vous avez de l'air sous pression ici, de l'air stérile sous pression. Les microbes ne peuvent pas rentrer. Et il y a dedans des souris qui vivent sans un seul microbe. La première génération est née par césarienne. Les petits ont été désinfectés et mis là-dedans. Et depuis, ça se reproduit normalement, par voie normale, sans microbes. Quand on introduit des aliments, ils sont stérilisés. Quand on introduit des outils, ils sont stérilisés. Et donc, voilà, des souris sans microbes. Alors, contrairement à ce que prédisait Pasteur, qui avait dit que sans doute des animaux comme ça mourraient, dans une séance à l'Académie des sciences de 1885, je crois, de mémoire, dans une discussion, il dit qu'il pense qu'un animal sans microbes mourrait. Alors, ils ne meurent pas, mais vous allez voir, ils ne sont pas en forme. Hein, parce que les souris sont comme vous et moi, entre leur boyau, la surface de leur peau, leurs narines, le vagin, les oreilles, elles abritent plusieurs milliers d'espèces de bactéries et de champignons unicellulaires qu'on appelle des levures. Elles abritent des levures et des bactéries, notamment dans le tube digestif. On compte qu'il y a à peu près autant de bactéries et de levures dans le tube digestif qu'il y a de cellules dans l'animal. Un pour un. C'est vrai pour nous aussi. Et évidemment, c'est de ça dont sont privées les souris axéniques. Et en fait, ce que révèlent les souris axéniques, c'est que ces microbes sont utiles dans la nutrition. D'abord, ces souris doivent manger 30% plus que des souris normales, dotées de microbes, pour grandir autant. Donc elles digèrent moins bien. Il faut leur donner des compléments vitaminiques, alors même qu'elles mangent des aliments normaux pour des souris. Et ça renvoie au fait que les microbes du tube digestif sont source d'une partie des vitamines. Et puis, elles s'intoxiquent avec des aliments de souris. Ça veut dire qu'un certain nombre de toxines de l'alimentation sont gérées par des microbes. Ça le fait aussi chez nous, hein. Juste pour prendre cet exemple, quand le soja est arrivé en Europe, on s'est aperçu que ce n'était pas bon pour la santé humaine, parce que ça contient toujours pour certaines variétés un perturbateur endocrinien. Et en fait, c'était bizarre parce que les Asiatiques mangeaient du soja sans avoir trop de problèmes. En fait, eux, ils ont des bactéries qui détoxifient ce produit-là et qui même d'ailleurs le transforment en un dérivé qui est un perturbateur endocrinien favorable. Alors que la dédzéine est cancérigène, fiche en l'air la régulation de la pression artérielle et aussi l'accumulation de calcium osseuse, sont dérivés, inactivés par des bactéries du tube digestif, et lui, au contraire, quelque chose qui améliore la régulation de la pression artérielle, qui améliore le stockage du calcium, et qui explique en particulier que les femmes asiatiques soient moins souvent à la ménopause, confrontées à des problèmes d'ostéoporose ou de bouffées de chaleur. Alors, ça nous raconte une histoire de détoxification, mais on n'est pas là pour parler de nutrition, on est là pour parler de protection. En fait, le rôle des microbes de l'organisme et dans la protection, il est double. Il est d'abord un rôle direct par leur présence. En faisant main basse sur les ressources, en occupant le terrain, ils empêchent les indésirables ou ils limitent l'installation d'indésirables. On peut quand même attraper une diarrhée ou un rhume, hein, c'est pas le problème, mais ça limite l'installation des indésirables. Et ils produisent aussi des antibiotiques. Tiens, par exemple, dans la muqueuse du nez, on a un staphylocoque. Alors vous allez deviner où est-ce qu'il a été découvert, le staphylocoque de Lyon, qui produit un antibiotique qu'on appelle la lucdunine qui empêche la prolifération des staphylocoques dorés. De la même façon, sur la peau, vous avez des malassezias, c'est des levures, donc des champignons unicellulaires, qui, vous savez, font à la fois les pellicules et puis les petites croûtes rouges qu'on a des fois aux ailes du nez ou à la racine du nez. C'est des levures qui sont très protéolytiques, qui détruisent les protéines pour s'en nourrir et qui, du coup, vous détruisent la peau en petites squames quand il y en a trop. Bon, en général, il n'y en a pas trop et vous n'êtes ni rougeur ni squame. Bon. Ces levures, elles ont la caractéristique d'attaquer un peu toutes les protéines et notamment elles attaquent les protéines qui permettent au staphylocoque doré de s'attacher les uns aux autres en s'attachant à la peau. Du coup, alors qu'ils devraient être en groupe et faire la fameuse stratégie de la tortue, vous savez, ceux de l'extérieur prennent des coups mais ceux de l'intérieur n'en prennent pas, ils se retrouvent en cellules séparées qui partent au premier lavage ou qui, au premier antibiotique ou aux premières toxines, vont tous se retrouver imbibés de toxines, alors que normalement, seuls ceux de la périphérie devraient en souffrir et former de leurs cadavres un rempart. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette salle, hein, 80% d'entre vous ont le staphylocoque doré sur la peau ou dans les narines, mais il est accompagné. La question n'est pas de l'avoir ou de ne pas l'avoir, il est de savoir en quelle compagnie il est. On peut très bien être porteur du staphylocoque doré sans risquer de développer une maladie à staphylocoque doré, rassurez-vous, et c'est des exemples de protection directe. Mais il y a aussi des protections indirectes, par la modification du système immunitaire. Et l'histoire que je vais vous raconter va vous en rappeler une autre. Hein. Je vais prendre des souris et leur coller une maladie qui n'est pas une maladie de souris, la leishmaniose, un protozoaire qui fait des trous dans la peau, qui grandissent jusqu'à atteindre des organes vitaux et tuer l'animal. On appelle ça aussi la maladie de Chagas. Or, c'est une maladie tropicale, mais ce n'est pas une maladie de souris, donc tout devrait bien se passer. Et d'ailleurs, quand on fait ça, quand on inocule cette maladie sur une souris normale, une souris contrôle, donc qui est pleine de microbes, la peau fait une papille de réaction et expulse une petite croûte dans laquelle se retrouve l'intrus, qui tout simplement en fait, ne rentre pas dans l'organisme. Bien. Maintenant, prenons une souris exénique. Alors la souris exénique, hein, c'est une souris qui n'a pas de microbes et vous observez déjà qu'elle a une peau qui n'est pas faite normalement. Il y a des problèmes de développement, on va y revenir, ça ne marche pas bien. Mais surtout, vous voyez que ça ne fait pas une réaction terrible et je vois les premiers trous qui se forment. Cette souris attrape une maladie qui n'est pas une maladie de souris, un petit peu comme tout à l'heure le tabac attrapait la pourriture grise qui n'est pas trop une maladie de tabac. Alors en fait, la taille des lésions est beaucoup plus petite, mais je vais vous montrer quelque chose qui est assez convaincant quant au rôle du microbiote et qui montre aussi comment on peut utiliser ces bactéries, ces souris exéniques. L'opération que je vais vous raconter, c'est de réintroduire dans la cage des staphylocoques de la peau, Staphylococcus epidermidis. Une grande banalité, hein. Jean, je ne sais pas quand tu as pris ta dernière douche, mais si c'était hier, tu dois en avoir... C'est peut-être pas hier, mais tu en as au moins une centaine de millions sur la peau. Donc c'est vraiment une banalité chez les vertébrés. Et en général, ça ne fait rien. Donc on réintroduit dans la cage, une contamination de Staphylococcus epidermidis, et puis on inocule la maladie 8 jours plus tard. Et là, de quoi s'aperçoit-on? La lésion est beaucoup plus grande. Et quand on regarde le taux de prolifération, la quantité, mais c'est de la prolifération, parce que normalement, il y en a très peu, des lymphocytes capables de repousser la leishmaniose, on s'aperçoit que c'est élevé chez une souris normale, elle n'attrape pas la maladie pour cette raison, très peu élevé chez une souris exénique, mais par contre, le taux de prolifération de ces lymphocytes, ces globules blancs anti-leishmaniose, est redevenu normal si on a réintroduit des staphylocoques de la peau 8 jours avant l'inoculation. Une fois de plus, on est là sur la réponse immunitaire et on voit très bien que le système immunitaire, il dialogue, il est potentialisé par les microbes. Alors, il y a donc un rôle dans le développement du système immunitaire, mais je voudrais vous montrer qu'il y a des rôles dans d'autres aspects du développement. Et maintenant, on va prendre le système nerveux, rien que ça, avec un système d'études de comportement des souris fait d'une croix surélevée avec deux bras entourés de hautes cloisons et deux bras libres. Et là-dessus, on lâche des souris. Par exemple, on lâche une souris normale. Alors, on l'a mis dans la partie entourée de hautes cloisons qui est en haut. Elle explore ça. Elle regarde un petit peu partout. Elle regarde dehors. Elle se dit que ce n'est pas un endroit où mettre une souris. Les souris sont agoraphobes, photophobes. Elle se protège, quoi, des mauvais coups et des prédateurs. Et elle continue à explorer la partie entourée de hautes cloisons. Maintenant, prenons une souris axénique. Alors, en fait, je vais vous dire un truc. Ces deux souris ont un lien de famille, elles sont de la même portée. Elles sont toutes données axéniques, et puis il y en a une qu'on a sortie de la cage, et qui donc s'est colonisée de microbes. Mais c'est quand même pas génétiquement trop différent. Pas trop. Alors, on la met là, donc c'est la sœur ou le frère de la précédente, et elle regarde partout. Vous remarquez qu'elle est beaucoup plus, elle a beaucoup plus grande vivacité. Hein. Elle sort, elle se penche. Alors si on fait l'expérience avec vous, il ne faut pas se pencher parce que c'est dangereux. Là, elle a le temps de se faire bouffer par un chat ou se prendre un coup de balai. Hein. C'est quand même pas une attitude normale pour une souris. On se demande si elle va rentrer enfin à l'abri, et non. Alors, ok, peut-être qu'il y a une souris de la nupe et une souris conservatrice. Vous voyez, ben, on n'est pas tous pareils, même dans la famille. Hein. Il se peut que ce soit des traits qui soient des traits individuels parce qu'on n'a pas ici un matériel génétiquement identique. Si on répète ça sur des dizaines de couples de souris de la même fratrie traitées de la même façon, on s'aperçoit qu'il y a des différences significatives dans la façon dont elles occupent l'espace. Et on voit notamment que dans la zone ouverte, on a beaucoup plus de présence de la souris axénique. Et ces films, finalement, sont des films assez représentatifs, même peut-être excessivement représentatifs, mais ils reflètent quelque chose qu'on a en tendance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que votre souris axénique, si vous la sortez de la cage et que vous attendez un peu, elle redevient normale si vous la sortez avant la fin du développement du système nerveux. Si vous la sortez après, l'expérience a été faite par les auteurs, elle change un peu de comportement, mais pas beaucoup. Et son comportement ne redevient pas le comportement, entre guillemets, normal. Alors c'est très fort, mais c'est triste pour les souris, car l'histoire se termine par des tranches fines de cerveau de souris pour étudier l'expression des gènes dans le système nerveux central. Et ici, vous avez des couleurs, hein, plus c'est chaud, plus les gènes sont exprimés. Alors, ce dont on s'aperçoit, et là encore, il y a derrière plusieurs souris découpées, donc il y a des statistiques qui permettent de voir si effectivement c'est robuste, on s'aperçoit que les souris axéniques expriment différemment les gènes, plus ou moins, ça dépend des cas. Et je vous ai mis là deux exemples parmi la quarantaine qui a été étudiée. Un gène qui s'exprime dans les conditions anxiogènes, on voit que les souris axéniques élevées dans les mêmes conditions, elles l'expriment moins. Et sans être la seule cause, parce que je ne veux pas être réductionniste, c'est cohérent avec le fait qu'elles prennent plus de risques et qu'elles aient une attitude plus, qu'elles s'exposent plus. L'autre gène est un gène de plasticité, enfin, qui intervient dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité à réorganiser les contacts entre les neurones, et qui est quelque chose d'important pour la mémorisation. Or, on sait que les souris axéniques mémorisent très mal l'endroit où se trouve la nourriture, le bouton sur lequel il faut appuyer pour avoir de l'eau. Et de fait, le marqueur, le gène marqueur, s'exprime moins bien. Alors, je ne dis pas qu'il explique à lui seul tout le fait que la souris axénique ait moins bonne mémoire, mais c'est cohérent. Et ça veut dire qu'en fait, la présence de microbes envoie des signaux développementaux importants, on le sait aujourd'hui par trois voies, la voie sanguine, des molécules sécrétées qui vont induire des réponses, notamment développementales du système nerveux, la voie nerveuse, il y a un certain nombre d'effets qu'on n'observe pas si on coupe l'innervation qui relie le système nerveux central au tube digestif, et aussi les cellules du système immunitaire qui patrouillent dans l'organisme et qui peuvent à un endroit contacter ou non les microbes, et ensuite en circulant arriver près du système nerveux et transmettre des informations. Voilà les trois voies par lesquelles on sait que transfert des informations. Et ma conclusion, c'est que le développement, il est aussi lié aux microbes. Alors, vous allez me dire, c'est sympa ces histoires de souris et de vaches, mais et nous ? Quand même bon. Alors nous, on a échappé à pas mal de maladies qui ont emmerdé l'humanité, il faut le dire, pendant longtemps, avec l'hygiène, puis plus récemment avec les vaccins. Et dans le même temps où on voyait régresser les maladies transmissibles, eh bien, on a vu augmenter les maladies de la modernité. Ces maladies de la modernité, bon, abîment la qualité de vie de la plupart, enfin, de beaucoup d'entre nous. Ces maladies-là sont des maladies de trois sortes. Il y a d'abord les maladies du métabolisme, les diabètes, l'obésité. Il y a les maladies du système immunitaire, asthme, allergie, où le système immunitaire surréagit, mais aussi les maladies où le système immunitaire commence à attaquer l'organisme, la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques. Et puis, il y a toutes les maladies du système nerveux. Alors, dans l'âge, Alzheimer et Parkinson, mais dans le jeune âge, dès le jeune âge, l'autisme. Alors, souvent, les gens disent « Non, les autistes ne sont pas malades. » Bon, c'est quand même pas une façon d'être dans nos sociétés qui rend pleinement heureux ceux qui la portent. Et donc, toutes ces histoires-là ont en commun trois choses. D'abord, les individus malades n'ont pas la même diversité microbienne que les individus sains. Ils ont souvent une diversité microbienne moins grande. Ce n'est pas tout à fait les mêmes espèces et il y en a moins. Alors vous allez me dire, ça ne démontre rien. Cause ou conséquence ? Deuxièmement. Quand on fait des transferts fécaux, c'est-à-dire qu'on prend sur un individu des bactéries pour les mettre à un autre individu qu'on a nettoyé de ces bactéries avec un antibiotique, alors on ne fait que pour le tube digestif, hein. Et bien on s'aperçoit que quand on donne des bactéries d'individus malades à des souris, elles commencent à développer des choses qui ressemblent aux symptômes de la maladie. Par exemple, un surpoids quand on leur donne l'ensemble des microbes d'une personne atteinte d'obésité. Et puis, mais ça c'est fait pour toutes les maladies que j'ai citées, mais bien sûr qu'en milieu hospitalier, hein, ce n'est pas des choses à faire à la maison, bien sûr. Quand on donne le microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des microbes d'un individu sain à un individu malade, eh bien, ses symptômes régressent. Donc ça va en faveur de quelque chose de causal. Donc, ce que j'ai dit, c'est que le microbiote n'est pas fait pareil, il est moins divers. J'ai dit qu'on pouvait transmettre la maladie ou au contraire la faire régresser. Bon, et ma troisième observation, c'est que dans ces transferts fécaux, on voit la maladie revenir. Et ce qui est intéressant, c'est que si on suit la composition du microbiote, si on suit la composition microbienne du tube digestif, en fait, elle dérive et revient vers la composition morbide avant que les symptômes ne reviennent. Et on commence aujourd'hui à voir que tout un tas de maladies, on peut les voir, on peut les deviner avant, parce qu'elles sont détectables dans le microbiote avant les symptômes. Donc, en plus, ce que j'ai dit, c'est que les symptômes ne régressaient pas complètement après le transfert. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas en train de dire que le microbiote explique tout. Je veux juste dire qu'il est une des causes, la perte de biodiversité dans le microbiote est une des causes de ces maladies qui ont d'autres déterminismes génétiques, environnementaux, comportementaux, c'est clair. Je ne suis pas réductionniste ici, mais néanmoins, vous voyez que c'est peut-être là que l'érosion de la biodiversité nous abîme le plus. À ce point qu'un quart des Européens, demain, seront affectés de l'une ou l'autre de ces maladies qui vraiment peuvent abîmer la vie. Il est temps de retrouver de la saleté propre, c'est-à-dire ce degré de contamination et de présence de microbes que vous trouverez peut-être mal propre culturellement, mais qui est plus propre de ce qu'on appelle, qui est plus proche, pardon, de ce qu'on appelle l'hygiène, qui est le fait d'être ce niveau de contamination qui nous permet d'être en bonne santé. On vit dans un monde trop propre, nos aliments sont lavés, cuits, mange pas ça, ça a traîné par terre, nos aliments sont beaucoup plus rarement fermentés, nos enfants, ils ont du mal à se contaminer. Ah oui, parce que quand ils naissent, nos enfants, hein, ils n'ont pas de bactéries dans le tube digestif, ils n'en ont pas sur la peau, ils les acquièrent dans l'environnement et très souvent sur les parents. La moitié hein, des bactéries d'un enfant sont des bactéries de sa mère. On n'a pas trop les chiffres pour le père, mais c'est un peu moins. Le contact avec la mère est plus étroit. Mais il y a plus encore, à propos des enfants, et pour toujours parler de l'homme. Vous savez qu'il arrive aux enfants de pleurer, et quand ils pleurent, c'est au début pas du tout une manipulation des parents. Au début, c'est qu'ils ont mal au ventre, ils ont mal au ventre parce qu'ils digèrent mal, ou parce qu'ils ont attrapé des bactéries qui leur font mal au ventre. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore constitué leur microbiote adulte, et que donc, ils sont plus colonisables, et ils digèrent moins bien. C'est à l'âge de 3 ans qu'on acquiert un microbiote adulte. Or, dans le lait maternel, il y a un composant qui gère ça. Regardez plutôt. Le lait maternel contient beaucoup d'eau, il contient beaucoup de lactose, un sucre complexe sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui est un sucre normal du lait, que digèrent les enfants, mais pas les adultes, normalement, des lipides et des protéines, mais les protéines sont moins abondantes qu'un composé qui représente 15 grammes par litre dans le lait humain, ce qu'on appelle les oligosaccharides du lait humain. Et c'est des composants assez énigmatiques, car figurez-vous que les enfants ne les digèrent pas. Alors, comme ils sont en plus très difficiles à synthétiser, il n'y en a pas dans les laits synthétiques. Or, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, ces oligosaccharides sont des aliments pour les bifidobactéries et certains lactobacilles, et qui permettent donc l'arrivée, l'installation et la prolifération de ces bactéries qui ont plein d'effets bénéfiques, notamment celui de faire écran aux maladies, mais pas que. En fermentant le lactose, ça acidifie le tube digestif et cette acidité, je vous ai dit, c'est antibiotique l'acidité. Elle empêche l'installation de tout un tas de maladies. Et en plus, on sait aujourd'hui que ces bifidobactéries émettent de l'acide indole lactique qui est un régulateur du développement du système immunitaire. Vous y êtes ? En fait, dans le kit de survie que nous donne notre mère à la naissance, une partie sert à nourrir des bactéries et signe bien la nécessité absolue d'être bien accompagné en termes de microbes. Donc cette image est une image de microbiologie puisqu'à la fois c'est le moment où des microbes entrent dans le tube digestif de l'enfant et c'est aussi le moment où ils sont nourris par la maman. Bon. Donc on a fait les animaux, sur la checklist, il nous reste à faire les civilisations. Alors, on pourrait beaucoup parler du rôle des microbes dans nos civilisations, on pourrait parler de guerre biologique, on n'était pas très loin d'en parler tout à l'heure ensemble. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de parler de la présence des microbes dans notre alimentation. Vous les voyez là, les microbes ? Alors, il y a ceux qui étaient là, mais qui sont cuits, les levures du pain. Bon, où est-ce qu'ils sont encore ? Dans le fromage, dans les yaourts, dans le thé qui est fermenté. Alors, il y en a un peu partout, mais dans le processus de fabrication, en revanche, mais vous avez raison, un miel sans bactéries, il faut vraiment se lever de bonne heure. Hein. Simplement, il y a tellement de sucre qu'ils ont un peu de mal. Quoi. Non, mais il y a le beurre aussi. Non, on l'oublie, mais une des choses qui différencie le beurre de la crème fraîche, c'est qu'il est fermenté. Et d'ailleurs, le bon goût de noisette du beurre, c'est le diacétyl. Et le diacétyl, vous le connaissez, parce qu'on le retrouve dans les chardonnays, par exemple, dans certains vins blancs, où il est aussi issu de bactéries fermentaires. Et donc, le beurre, c'est aussi un aliment fermenté. Bon. Pourquoi fermenter ? Alors, je voudrais vous expliquer à quel point la nourriture néolithique a été une malbouffe terrible. Au néolithique, on a des animaux, pas au début, hein. Au début, on a surtout des plantes. Alors, on verra les plantes après. Mais on a des animaux, et notamment, on a de quoi faire du lait. Or, le problème du lait, ben, c'est que normalement, chez les mammifères, les adultes ne le digèrent pas. D'ailleurs, en France, 36% d'entre nous ne digèrent pas le lait. Alors, c'est-à-dire parce que la France est une terre d'immigration qu'on est à 36%. Hein. Si vous allez en Suède, vous êtes à 80-85% de gens qui digèrent le lait. Chez nous, on est plus qui digèrent le lait. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens, moins l'immigration venue de zones où on ne boit pas de lait est grande, plus la quantité de gens qui digèrent le lait à l'âge adulte est grand. Voilà. Alors, parce qu'en fait, dans nos civilisations, vous allez voir, on a une histoire avec le lait qui a changé notre génome. Mais et finalement, ce n'est pas complètement aberrant. Les intolérants au lactose, c'est des animaux non dénaturés, pour le coup. Ils sont comme les autres mammifères. Ils ne digèrent pas le lactose, qui est un sucre double, donc il est trop gros pour rentrer dans les cellules, il faut le couper en deux avec une enzyme qu'on appelle la lactase pour qu'il rentre. S'il ne rentre pas, non seulement on ne se nourrit pas de ce sucre, mais il y a des bactéries dans le tube digestif qui l'utilisent et qui vont faire la fête avec, puisqu'il y en a plein et que l'organisme ne le prend pas, elles vont fermenter. Cette fermentation donne de l'acide lactique, de l'acide acétique, ça fait de l'acidité. Ça abîme le tube digestif et en plus, comme ça fait plein de molécules, ça attire l'eau pour des raisons osmotiques et donc ça donne des diarrhées. Et ces diarrhées, donc, si on insiste, deviennent des diarrhées sanglantes au bout de quelques jours. Bref, pas digérer le lactose, on ne boit pas de lait. Alors, quand on regarde nos ancêtres qui ont commencé à traire des vaches, je vais vous montrer après comment c'est qu'ils traînent des vaches, et qu'on regarde leur constitution génétique, on s'aperçoit qu'ils sont tous intolérants au lactose à l'âge adulte. Et pourtant, ils traient des vaches. Pourquoi ? Et d'ailleurs, comment sait-on qu'ils traient des vaches ? Donc, vous voyez, on est au début de la domestication du bétail en Europe. On n'est pas obligé, d'ailleurs, de traire les vaches. Hein. On peut les utiliser comme animaux de trait. Mais on sait qu'il y a 5-6 000 ans, non seulement ils ont des vaches, mais en plus, ils les traient parce qu'on retrouve des poteries avec des résidus d'acide gras. Et on trouve deux types de poteries. On trouve des toutes petites poteries délicates avec un tout petit bec. Bon, ça, c'est un complément alimentaire pour les enfants, très probablement. On n'en trouve pas beaucoup des comme ça parce qu'elles sont très fragiles. Ce qu'on trouve surtout, c'est de grosses poteries pleines de trous. Et ces poteries pleines de trous, c'est des façons de faire des fromages. Vous caillez le fromage, vous laissez passer le lait, et c'est pour ça qu'il y a des résidus d'acide gras de lait là-dedans, vous laissez passer le petit lait qui part avec une partie du lactose, et ce qui reste de lactose dans le caillé, les microbes s'en occupent. Le digère, le transforme en microbes, en tout ce qu'on veut, et finalement, vous pouvez manger le fromage. Donc, en fait, on a complètement perdu de vue le fait que nos ancêtres, ils ont pu manger le lait, avoir accès au lait que grâce à des microbes, et puis ensuite, il s'est produit une sélection qui a favorisé les gens capables de boire directement le lait, et aujourd'hui, on se retrouve avec la capacité de boire le lait. Mais historiquement, le lait n'a été buvable qu'après fermentation. On n'est pas obligé de jeter le petit lait, d'ailleurs, on peut aussi faire du yaourt. Et ça détruit le lactose. Et les gens intolérants au lactose, un yaourt bien fait, ils peuvent le digérer. Alors, les yaourts aujourd'hui industriels ne sont pas toujours bien faits, parce qu'on interrompt la fermentation, mais voilà. Alors en plus, les fromages, ils ont un aspect intéressant, c'est qu'ils font une croûte. Et la croûte, c'est une vraie armure de microbes qui ont été choisis par les gestes de salage, l'environnement de la cave et tout ce qu'on veut. et qui fait obstacle à l'installation de maladies. En plus, souvent en sous-couche, il y a souvent des microbes un peu oranges. Vous les connaissez bien du Munster. Hein. Quand on frotte le fromage régulièrement, il y a que... Quand on ne le frotte pas régulièrement, il y a des champignons filamenteux qui s'installent par-dessus. Et ces champignons-là, ils sont oranges. Pardon, ces bactéries-là, les brévibactéries, sont oranges parce qu'elles contiennent du carotène. Et ça, c'est de la vitamine A. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans la croûte du fromage, non seulement il y a quelque chose qui fait écran, protection, mais aussi quelque chose qui fabrique des vitamines, puisqu'il y a des cellules vivantes. Alors que les vitamines du lait, elles s'oxydent très vite dans le fromage. C'est les vitamines des microbes qui sont intéressantes. Et oui. Alors, je reviens sur mon effet de protection. Et je vous raconte cette expérience qui consiste à élever des listeria. Les listeria font partie des contaminants indésirables du fromage qui peuvent entraîner des lésions rénales, des avortements et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment pas le truc qu'on veut manger en grande quantité. Et on regarde leur prolifération sur 30 jours. On regarde leur prolifération sur 30 jours dans un milieu de culture pur où il n'y a rien que la nourriture et les listeria. Vous voyez qu'en puissance de 12, elles se multiplient 1 million, en puissance de 10, pardon, elles se multiplient 1 million de fois. On rajoute dans le milieu de culture des gratouillis, des mélanges de souches qu'on utilise pour les fromages pasteurisés. Vous savez que, industriellement, quand on veut faire des fromages, on stérilise le lait puis on rajoute des souches choisies pour donner la texture et le goût que l'on souhaite. C'est des mélanges de souches qui font des fromages pas étonnants, prédictibles, mais qui sont quand même des fromages. Alors on ne va pas citer de marque, on va parler du Caprice des Dieux ou de la Chaussée aux Moines, mais sans en parler. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez là des fromages qui sont, en termes de texture et de sapidité, réussis comme fromages, mais par contre, vous voyez qu'ils n'empêchent pas du tout l'installation des listeria. Maintenant, on retourne dans la cave crasseuse, là, avec des étagères en bois que la DGCCRF a vraiment envie de fermer. On gratouille le tout venant qui s'est installé tout seul sur ce fromage, qui en plus est un fromage au lait cru, donc qui n'a jamais été stérilisé. On introduit ça, et là, regardez, les listeria se développent 100 fois moins. Ça, c'est un truc que l'industrie n'a pas réussi encore à imiter, c'est que dans les gestes anciens de fermentation, il y avait, empiriquement, hein, puis en gros, ils avaient fait ce qui rendait le moins malade, hein, il y avait des gestes qui protégeaient. Et là, vous sentez quand même une histoire incroyable. C'est que les microbes, ils protègent, ils font des vitamines, ah, puis ils rendent le fromage coulant, ils commencent à le digérer. Ils font la même chose que dans notre tube digestif. En tout cas, il est temps de remettre un peu de saleté dans nos aliments pour être sûr au moins que nos aliments ne sont pas contaminés, parce qu'aujourd'hui, les grands problèmes d'aliments lactés contaminés qui entraînent des rappels, c'est les produits qui ont été pasteurisés. Hein. Ben oui. Il est temps de mettre un peu de saleté propre dans notre alimentation. Alors, venons-en aux plantes. Quand on a commencé à domestiquer des plantes, au moment du début de l'agriculture, ben, c'était des plantes encore sauvages, et elles avaient... peut-être moins maintenant, hein, mais elles avaient alors tous les traits qui leur permettent de se défendre de leurs agresseurs. En fait, elles étaient toxiques. Ce n'est pas une vision d'esprit. Prenons les céréales qui ont été domestiquées en Orient, au Moyen-Orient et en Mésoamérique, avec le maïs. Les céréales ont la caractéristique d'avoir un petit truc astucieux pour retenir leurs sels minéraux, qui non seulement retient ces sels minéraux qui évitent que ce soit emmené par l'eau quand la graine commence à germer, mais en plus, va être toxique pour les animaux. Ce sont les phytates. Alors, les phytates, ce sont des polymères de phosphore. En gros, c'est du phosphate accroché à un inositol. Bon, et cette molécule-là, elle n'est pas soluble. Donc déjà, le phosphore ne va pas s'en aller. Et comme la plupart des animaux n'ont pas de phytase pour détruire ça, ben, ils n'ont pas accès au phosphore. Vous allez me dire, c'est pas grave, mieux vaut manger le reste. Attendez, cette molécule est donc un polyanion. Elle est très chargée négativement. Elle retient tout un tas de cations, calcium, magnésium, fer. Et du coup, ils sont retenus, ces cations, du lessivage par l'eau à la germination de la graine. Mais en même temps, qui n'a pas de phytase n'a pas accès au calcium, au fer, au magnésium qui reste retenu par les phytates. Vous y êtes? Donc en fait, si vous mangez, ben vous n'avez pas accès à ces réserves minérales, mais il y a pire. Comme il reste des charges négatives libres, tout le magnésium, tout le fer, tout le calcium de votre bol alimentaire que vous obtenez d'autres sources va se fixer sur les phytates et exit avec l'effet SES. Vous y êtes? En gros, on se déminéralise et d'ailleurs, l'humanité en Europe, enfin les Européens, au moment du début de l'agriculture, ils ont perdu 16 cm de hauteur. Il y en a tout un tas de populations, notamment dans l'Illinois, il y a 800 ans, il y a eu une invention de l'agriculture, et là, on a trois fois plus de dégâts sur les squelettes. On pense même que la petite taille de certaines populations asiatiques est une adaptation au phytate du riz, Parce que qui dit petite taille dit moindre besoin minéraux. Toutes les populations asiatiques ne sont pas petites. Hein. Et donc, cette histoire-là était une mauvaise histoire. Et comment on y a survécu ? Ben, on a fait du pain et du pain au levain. Parce que dans le pain au levain, il y a non seulement des levures, qui n'en peuvent mais, quant aux phytates, mais aussi des lactobacilles, qui, eux, ont des phytases. C'est leur façon de récupérer du phosphore, du fer, du magnésium et du calcium. Et donc, quand on fait du pain au levain, on a deux grands effets. Le premier, c'est que c'est acidifiant, donc le pain va se conserver mieux parce qu'il est plus acide. Et la deuxième, c'est qu'on détruit les phytates. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus pertinent. On peut faire du pain juste avec des levures qui n'ont pas de phytase, parce qu'on a des farines aujourd'hui qui, d'une part, sont faites avec des variétés qui comportent peu de phytates, et d'autre part, souvent, on rajoute des phytases dans les farines. Ça fait partie des additifs. Donc maintenant, on peut faire du pain en levure, voire même manger de la farine crue, si on veut. Ce n'est pas un problème. Mais autrefois, c'est le pain au levain qui nous a sauvé des phytates. Le chou. Goûtez un jour du chou sauvage si vous avez l'occasion d'aller en zone méditerranéenne et de goûter ça. Moi, ayant une collègue qui travaille là-dessus, un jour j'ai été l'aider à cueillir ses choux pour ses travaux de génétique. C'est infect. Hein. D'ailleurs, je me demande comment nos ancêtres ont pu manger ça. Les choux appartiennent à la famille des crucifères, celle de la moutarde, du wasabi, du radis, qui se caractérisent par toute une famille de composés soufrés, les glucosinolates, voilà le soufre, avec des radicaux variables. Et selon le radical, ben, c'est brûlant ou pas, et c'est bon pour la santé ou non. Et dans les choux historiques, non seulement c'est immangeable, mais en plus, si vous en mangez, ça provoque des diarrhées, et c'est très mauvais pour le foie et pour les reins. Et voilà. Et alors donc, rassurez-vous, aujourd'hui, on a sélectionné des choux, c'est comme pour les céréales, qui ont toujours ces composés, ils ont un goût très marqué, mais ils n'ont pas ceux qui sont toxiques. Donc vous pouvez manger du chou cru, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de savoir comment ont fait nos ancêtres. Ben, c'est très simple. Ils ont fait de la choucroute. Alors, ils ont aussi eu des méthodes de trempage. Hein, mais le problème des méthodes de trempage, c'est que vous perdez du pouvoir nutritif. Ils ont fait de la choucroute où des néoconostoques et des lactobacilles détruisent les glycosinolates pour s'en protéger. Voilà. Et en plus, quand vous avez vos réserves de choucroute, bah, vous avez des vitamines, les vitamines des cellules vivantes, parce que tout ce que vous avez stocké, les vitamines s'altèrent. Les vitamines des cellules vivantes, des microbes, c'est notamment une source de vitamine C. Et la boucle est bouclée. Voilà comment on franchit l'Atlantique. On emmène de la choucroute pour lutter contre le scorbut. Eh oui. Et on n'aurait pas été exposé des problèmes d'implantation du pain en Amérique du Sud ou en Afrique si on n'avait pas eu la capacité à emporter des aliments dont on savait qu'ils étaient antiscorbutiques et qui en fait le sont par des microbes. Vous voyez que les chemins de l'évolution culturelle ont repris les chemins de l'évolution biologique, en ce sens que dans nos gestes culturels aussi, nous avons recruté les microbes pour nous protéger, pour nous aider à digérer, pour faire des vitamines. Et finalement, arrivé à la fin de cette partie-là, on s'aperçoit que, effectivement, nos civilisations, les organismes animaux, les organismes végétaux sont accompagnés de microbes qui ont tout un tas de rôles. On pourrait en conclure que l'essentiel est invisible pour les yeux parce que ces auxiliaires-là, on a mis beaucoup de temps à les voir et même maintenant, on sait les concevoir, mais on les voit très peu. En même temps, ce n'est pas vrai parce que la présence microbienne, sa preuve, c'est des choses que vous voyez bien. C'est les plantes, c'est les animaux, et c'est les civilisations, au moins sous leur angle alimentaire. Donc finalement, vous avez vu plein de structures qui ne révèlent pas ces microbes, mais qui sont la preuve des microbes, la conséquence des microbes. Certains diraient un service écologique d'écosystèmes microbiens, on peut dire comme ça, si on veut. En tout cas, toutes ces structures ne sont jamais seules, elles sont toujours accompagnées de microbes, ça pourrait presque être le titre d'un livre d'ailleurs. Et c'est ce que je voulais vous raconter ce soir. Ah ben oui, je te mets un micro.
Merci Marc-André. Alors j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions ou de commentaires. Moi, oui.
Alors les virus, bon, il est évident que c'est microbiote. Bon, je n'ai pas défini le mot, mais microbiote, c'est l'ensemble des espèces de microbes qui se trouvent dans un organisme, des populations de différentes espèces. Dans ces microbiotes, il y a des levures, il y a des bactéries, il y a surtout des bactéries, mais il y a aussi des levures, voire dans les plantes, des champignons filamenteux. Et puis, il y a aussi des virus. Mais des virus, on a très peu de choses à dire, pour deux raisons. La première, c'est que l'inventaire des virus est plus difficile à faire que celui des bactéries ou des champignons. Parce que les bactéries et les champignons, ils ont des gènes en commun. Donc, vous pouvez étudier les communautés en regardant, pour un gène donné, un gène qui est chez tous les champignons, tu regardes qu'est-ce qu'il y a, toutes les copies de ce gène, par des méthodes de biologie moléculaire, et on obtient la liste des participants, et puis certains, on peut les identifier par rapport à des banques de données. Mais les virus, ils sont tous génétiquement différents. Donc, il n'y a pas un morceau d'ADN qu'on pourrait utiliser pour regarder toute la liste des virus. Si on veut savoir les virus qu'il y a dans un endroit, une goutte d'eau, un morceau de terre, un bout de tube digestif, il n'y a pas, il faut séquencer tout l'ADN et à la main, repérer les morceaux d'ADN qui sont des morceaux de virus. Alors ça se fait, mais c'est quand même moins routinier, donc il y a moins de papier. Et les effets favorables, il y en a quelques-uns qui sont décrits dans le dernier numéro de Médecine Science, par exemple, qui est en libre téléchargement, qui est un numéro spécial sur les virus, numéro peut-être c'est l'avant-dernier, bon. Bref, il est en téléchargement gratuit. On a, avec des collègues de Tours, écrit un article sur les virus bénéfiques pour les animaux et les plantes. Alors, on n'a pas de mal à raconter toutes les histoires favorables, parce qu'on en connaît une demi-douzaine. Parmi elles, il y a quand même le fait que certains virus nous aident à fabriquer le placenta, qui exige des fusions de cellules pour faire une barrière continue, empêchant les anticorps et les cellules immunitaires de la mère de rentrer dans le fœtus. Et la fusion des cellules s'opère grâce à un gène qui est un gène qui normalement sert à des virus à fusionner avec la cellule cible. Donc en fait, c'est un virus qui est rentré dans notre génome et qui est devenu un morceau du génome qui nous permet de faire la fusion cellulaire qui exige le placenta. Donc, il y a quelques histoires à raconter qui sont dans tous les bons livres sur les microbiotes, mais c'est très peu parce qu'en fait, nous en sommes, quant à la connaissance des virus et de leurs effets dans les microbiotes, là où nous en étions dans les années 70, quant à la présence et aux effets des bactéries, des microbiotes sur notre santé et sur les animaux et les plantes. Et vous avez raison, hein, y en a.
On va peut-être prendre une question de ceux qui sont sur Internet. Et donc, une des questions, c'est comment les microbes intestinaux arrivent-ils à influencer sur le système nerveux ou sanguin ?
Alors, je l'ai évoqué, mais sans doute un peu rapidement tout à l'heure, donc on va le reprendre. L'idée, c'est que ce sont des grands producteurs de molécules. Il y a des estimations qui traînent, alors comme toutes les estimations qui traînent et qui ne sont pas bien sourcées, bon, qui disent que 80% de la diversité chimique qu'il y a dans notre organisme, 80% des types de molécules différentes dans notre organisme, ce sont des molécules de microbes. Bah, si vous avez 1000 à 10 000 espèces embarquées, chaque espèce fait des molécules particulières, oui, et donc, voilà, ça fait une énorme diversité. Alors, attention, c'est des pourcentages, là, des différentes formes de molécules. Ce n'est pas des pourcentages du volume, du nombre de molécules totales. Il est évident que les molécules produites par certaines espèces microbiennes, elles vont être très, très peu abondantes, alors que des molécules que produisent mes propres cellules vont être plus abondantes. Hein. On ne parle pas en abondance, là, on parle en sorte, diversité d'espèces de molécules. Donc, ça envoie des signaux. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'acides gras fermentaires, des acides isovalériques, des acides, je ne me rappelle plus les noms exacts, qui sont produits par le microbiote des individus qui souffrent d'autisme et qui sont des molécules qui vont ouvrir la maille de la barrière hémato-méningée, qui sépare donc le sang des neurones. Bon, voilà, là, ça permet à des choses de rentrer qui ne rentrent pas habituellement. Ce n'est pas un effet direct sur ces neurones. Hein. Et ça permet, voilà. Donc, il y a toute la voie humorale, et puis il y a la voie nerveuse. Il y a une très jolie expérience hein, qui a été faite sur des lignées de souris qui sont aventureuses, c'est-à-dire qui prennent des risques, qui ont des conduites un petit peu audacieuses pour des souris, et des lignées de souris qui ne sont pas audacieuses. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était bizarre, une souris était audacieuse ou au contraire timorée, non pas selon son pédigré, mais selon où elle avait été élevée. Vous savez, c'est la vie est un long fleuve tranquille. Hein. Quand on intervertit les portées, bah les portées ont les mêmes traits que les parents. Alors, pour étudier ça, parce qu'ils avaient un truc derrière une idée derrière la tête, hein. Ils se sont dit, bon, c'est peut-être des microbes, et ils ont montré qu'effectivement, en transférant des microbes, on transfère le comportement chez ces lignées de souris. Bon, alors l'histoire commence banalement. Là où elle devient moins banale, c'est qu'il existe un nerf qui relie le système nerveux central au tube digestif. C'est le nerf vague. On peut le sectionner, on marche moins bien, mais on survit. Alors, on ne fait pas ça sur l'homme, mais on a fait ça sur ces souriceaux. Et là, vous pouvez les transporter comme vous voulez. Ils ont un comportement qui est génétiquement déterminé. Il n'y a plus de modification du comportement, timoré ou audacieux, il n'y a plus de modification du comportement par les microbes. Donc là, le message, il doit remonter par le système nerveux. Alors l'idée qu'on se dit, c'est qu'il doit y avoir des molécules qui activent certains neurones, ça remonte dans le système nerveux et ça finit par changer des, soit le développement, soit le comportement, enfin voilà. Vous y êtes, c'est joli cette histoire-là. Et puis, la dernière chose, c'est la voie humorale, la voie immunitaire. C'est-à-dire les cellules du système immunitaire hein, patrouillent dans l'organisme, elles circulent avec le sang, mais elles peuvent même circuler entre les cellules, elles ont leur propre voie, les fameux vaisseaux lymphatiques. Donc c'est des trucs qui circulent, et en circulant, elles peuvent, sur la peau, dans le tube digestif, recevoir des signaux qui les modifient et vont leur faire modifier différemment d'autres cellules cibles. Notamment, dans leur circulation, elles rentrent dans le système nerveux, elles. Et là, elles peuvent éventuellement libérer des messages ou avoir des effets différents. Les trois voies.
Merci pour la qualité de votre exposé. Moi, j'aimerais revenir au début quand vous parliez de la mycorhize qui est donc présente chez 90% des plantes. Alors, quels sont les 10% restants ?
Alors, oui, vous avez raison. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop, mais je comprends votre question. Elle est très décente et en réalité, les 10% d'autres plantes, on sait d'elles deux choses. D'abord, les gènes qui permettent le dialogue de reconnaissance avec le champignon sont présents mais abîmés. Ou alors, ils sont présents actifs, mais on sent qu'ils sont respécialisés sur une fonction qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient en plus. Donc, on sent que c'est secondaire. D'ailleurs, on a des fossiles à 400 millions d'années qui montrent très bien les premières mycorhizes qui sont de ce type-là. Pas de ce type-là, mais de ce type-là. À 400 millions d'années, on voit ça déjà, sur des fossiles bien conservés. Oui, c'est assez étonnant. Donc, en fait, ça a commencé comme ça. Les algues sont sorties de l'eau, elles n'avaient pas de racines, elles ont juste abrité des champignons qui allaient faire les courses. C'est ça l'histoire. Bon. Alors, maintenant, quand on regarde aujourd'hui ces plantes, on voit déjà que génétiquement, clairement, elles sont plutôt sur une perte de ces gènes. C'est en gros, c'est qui ? C'est les mousses, au sens strict. Pas de. Voilà. Et puis des groupes de plantes comme les crucifères, dont le chou, hein, celles qui ont des goûts un peu marqués à cause des glucosinolates. Et puis les protéacées d'Australie. Puis enfin, quelques familles comme ça. Et ces plantes, elles vivent dans deux conditions différentes. Trois conditions différentes. Les milieux très riches, ben là on comprend qu'il n'y a pas besoin de champignons, parce que ça coûte quand même du sucre, un champignon. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de champignons, puisque le milieu est riche. Donc le milieu très riche, c'est bon, c'est le cas des crucifères, hein. C'est des trucs qui ont besoin de sol assez riche pour pousser. Bon. Deuxième exemple, deuxième cas, celles qui poussent en milieu pionnier, alors d'ailleurs c'est aussi souvent des crucifères, mais les plantes qui poussent sur des gravats ou sur des milieux où il n'y a pas de sol, il faut qu'elles se débrouillent sans champignons, parce que sinon ce n'est pas possible. Mais souvent d'ailleurs elles ne sont pas très compétitives, parce que dès que les champignons arrivent, elles sont remplacées par les plantes qui s'associent aux champignons. Bon. Puis la dernière chose qui peut vous paraître paradoxale, c'est les milieux, et c'est le cas des protéacées d'Australie, c'est les milieux extrêmement pauvres, où de toute façon c'est tellement pauvre que le champignon ne peut pas mieux que la racine. Et ces plantes-là ont des racines dites protéoïdes, très particulières, qui sont des racines qui font une espèce d'écouvillon très dense. Et en fait, à l'endroit où sont ces racines très denses, elles bazardent dans le sol des trucs qui pulvérisent la roche. Des acides, des radicaux libres, des enzymes, et tout. Et donc ça fout en l'air la roche, et ça récupère le peu de phosphate et d'azote qu'il y a. C'est une stratégie nutritive complètement différente. Voilà, donc ce sont un peu des exceptions écologiques.
Oui, je pose une question.
Vas-y.
Voilà. Et donc, en Afrique, il y a des arbres. Un antilope mange un arbre et à 500 km, le transfert de toxines à des arbres qui n'ont pas été attaqués et qui vont être, lorsqu'ils vont être attaqués, donc Alors, est-ce que les microbes interviennent là-dedans ?
Alors, cette histoire-là est une histoire qui est révélatrice du mauvais travail que font les vulgarisateurs. Parce que oui. Le mécanisme que tu dis existe, mais il n'a jamais été démontré dans ce cas-là. Bon. Et pourtant, on en parle toujours à propos de ça. Alors, l'histoire est la suivante, c'est que ces antilopes qu'on appelle des coudous, oui. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai acheté une bouteille, mais je ne l'ai pas ici. Je l'ai acheté, mais elle va m'être livrée chez mon caviste. Et il y a un viticulteur qui fait un vin qui s'appelle le coudou. Alors, il a la cuvée de base, et puis le grand coudou, c'est la cuvée. Et alors, mon caviste me dit, oh, c'est très bon. Je ne sais pas pourquoi il a pris ce nom-là. Alors, en fait, l'histoire est la suivante. Lui, il a compris, le viticulteur, la vraie histoire. Vos coudous, ces antilopes, pour les protéger de la chasse, on les a mis dans les parcs. Et on s'est aperçu qu'ils crevaient dans les parcs beaucoup plus que dehors où ils étaient chassés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils broutent et ils rebroutent toujours les mêmes arbres. Et les arbres commencent à accumuler des composés de défense qui sont des tanins. Et mon viticulteur, en fait, il fait un vin très tannique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il parle des coudous. Donc lui, il a dû lire mon livre sur les tanins. Alors, je vous explique, hein, c'est parce que j'ai aussi un autre truc à vendre. Voilà, j'ai fait un livre sur les tanins aussi. Commence justement en Afrique du Sud avec les coudous. Donc, ce qu'on sait, c'est que ces coudous sont morts de tanins, et probablement parce que les arbres les suraccumulaient. Mais il y a une hypothèse qui a été proposée, qui est que normalement, les coudous, ils circulent, donc les arbres qui vont brouter, on n'a jamais vu de coudous, et en plus, ils circulent en remontant le vent, pour que là où ils vont, leurs prédateurs ne puissent pas les détecter. Si vous descendez le vent, bah, vous êtes précédé par votre odeur, mauvaise idée. Hein. Donc, comme ils remontent, ben, ils vont toujours sur des arbres qui ne peuvent pas recevoir de l'air venant des arbres qui ont été déjà broutés. Et il y a eu cette hypothèse de proposer qu'il y avait des molécules d'alerte qui passent d'une plante à l'autre. Normalement, le coudou, comme il remonte au vent, les arbres sont naïfs en quelque sorte. Mais là, comme ils ont tout le temps brouté les mêmes, les arbres en s'entravertissant ont encore augmenté, ce qui est une réaction de base au broutage. Peut-être, c'est une hypothèse, elle n'a jamais été montrée dans ces cas-là. Sur d'autres modèles, on a montré qu'effectivement, les plantes peuvent émettre de l'éthylène et dialoguer entre elles. Et donc, c'est un premier raté de vulgarisation. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième raté de vulgarisation de la même espèce. C'est qu'on a dit aussi que le fait que des plantes soient associées aux mêmes champignons, il y a une grosse controverse récente. Je publie un article là-dessus, d'ailleurs, dans la Garance Voyageuse, si ça vous intéresse. Tous mes articles sont en ligne au bout d'un an ou deux sur le site du labo. Mais je laisse les revues quand même vivre leur vente un temps, donc il faudra attendre. Mais il y a eu des choses dans Le Monde ou dans Le Figaro sur ça. Récemment, il y a des scientifiques qui sont un petit peu énervés à propos de l'histoire suivante. C'est vrai qu'il y a des plantes qui partagent les mêmes champignons. C'est vrai qu'il y a des échanges. Nous, on travaille sur des plantes qui vivent à l'ombre en forêt et qui se nourrissent en recevant du sucre du champignon que le sucre que le champignon prend sur les arbres. Vous y êtes ? C'est ce qu'on appelle un réseau mycorhizien. Et le fait qu'il y ait un champignon partagé, il peut y avoir des échanges. Donc nous, on a montré les truands de ces échanges. Les plantes qui se développent à l'ombre en complétant leur photosynthèse par le réseau. Mais il y a une littérature qui a raconté des tas de choses. C'est Peter Volleben, le forestier allemand. C'est Suzanne Simard de l'université de British Columbia qui ont raconté des histoires de coopération entre les arbres, de pouponnières avec les petits, de maisons de retraite où les vieux, ben, ils n'ont plus de feuilles, mais les souches continuent d'être nourries par le réseau mycorhizien. Enfin, des trucs de ouf basés sur pas beaucoup de travaux. Donc récemment, j'ai des collègues de la même université que Suzanne qui se sont un peu énervés, qui ont pondu un article pour pointer le taux effrayant dans la communauté scientifique de citations erronées de travaux comme les miens, qui disent à un moment « Ah, il n'y a pas d'échange !» et qui sont cités pour dire « Par exemple, au Gabon, il y a des échanges. » Bon, vous y êtes ? Non, des trucs effrayants. Même dans la communauté scientifique, il y a eu un délire autour de cette entraide entre les plantes. Et notamment, une des entraides, c'est la transmission de signaux d'un arbre à l'autre. Quand un est attaqué, il y a des signaux qui passent et qui font s'allumer des défenses dans un autre. Ça, ça a été montré en pot sur des plantes herbacées, en forêt. Alors, je vous le fais bref. Si vous avez deux plantes qui sont en contact, uniquement il n'y a que l'eau qui passe entre les deux plantes, parce qu'il y a une membrane très fine. Quand l'une est attaquée, l'autre ne répond pas. Elle ne se prépare pas. Donc, il n'y a pas de signal qui passe par l'eau du sol. Si vous faites une membrane un peu plus grosse qui laisse passer les filaments des champignons, quand l'une est attaquée, l'autre se met à produire des molécules de défense. Vous voyez, ce phénomène, il existe. C'est des plantes hautes comme ça. C'est pas en forêt, c'est pas des arbres. Si maintenant vous laissez les racines se mélanger, si vous rétablissez la compétition racinaire, vous enlevez la membrane, Vous avez le réseau, vous avez l'eau, et la compétition racinaire, il n'y a plus d'effet. Or, ça, c'est la condition de base. Les racines des plantes sont mélangées dans le sol. Vous y êtes ? Eh bien, sur cet article-là, les gens ont dit « il y a un signal qui passe ». Alors que oui, il y a un signal qui passe, mais visiblement, il n'a pas d'effet physiologique ou pas d'effet écologique, puisque quand en plus les racines sont mélangées et qu'il y a de la compétition racinaire, on ne voit rien. Alors c'est un tout petit peu compliqué, mais ça montre que là, il y a encore eu de la vulgarisation salopée. Et moi, ce que j'appelle la vulgarisation salopée, je le dis carrément, c'est important, là, je suis sûr que tout le monde a Bac plus 3, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a des... Non, mais ce que je veux dire, non, mais il y a beaucoup d'auditoires pour qui les objets sont neufs, parce que ce n'est pas leur domaine, voilà. Hein, ça peut être des virtuoses de la cuisine, des virtuoses du violon, et quand ils écoutent de la science, ils n'ont pas de recul et on leur vend des trucs en faisant ce que j'appelle la vulgarisation salopée. C'est un truc qui est super attrayant, mais qui ne libère pas. Pour moi, la vulgarisation, elle doit libérer en faisant comprendre des choses, y compris des choses importantes pour sa vie.
Merci de ce petit rappel. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question, qu'on revienne à la saleté propre, ou je ne sais plus comment vous l'avez appelée, puisque manifestement, il y avait un diagramme qui était particulièrement intéressant, qui montrait la diminution d'un certain nombre de problèmes corrélés avec l'augmentation d'autres de types différents. Donc, il y a peut-être un optimum quelque part. Comment détermine-t-on cet optimum? Et comment on peut, de ce point de vue-là, aller vers des prescriptions relativement simples qui permettent de s'améliorer dans la vie de tous les jours.
Oui, et c'est là que ce sera vraiment libérateur pour le coup, parce que ça a des conséquences.
Du coup, la compréhension mène
alors,
à la
déjà,
libération.
Il faut se laisser coloniser. Se laisser coloniser, ça veut dire que donc vous allez peut-être manger moins nettoyé, vous allez moins vous nettoyer les mains. Le vrai problème quand on se nettoie les mains, c'est les pollutions chimiques. Pollution microbienne, on n'attrape pas de maladie en mettant les mains dans la bouche.
Problème par exemple sur les fruits, pourquoi on lave les fruits? Ce n'est pas pour les microbes, c'est pour tous les pesticides.
On se retrouve à choisir entre deux mots.
Quand
il y a une contamination chimique, on se lave les mains, on pèle. Mais quand il n'y en a pas, non. Quand on bio, ma femme nettoie la pomme, mais bon, moi je mange tout. Alors, donc. Non, mais c'est bon, après, on a ses répugnances. Hein, bon. Donc, l'idée, c'est d'être contaminable, mais pas comme des brutes. Si vous avez touché de la merde de chien, évidemment, vous lavez les mains. Vous voyez, il faut avoir une jugeote par rapport à certaines choses qu'on va écarter, pour notamment éviter toutes les contaminations fécales. L'autre chose, c'est qu'il faut être bien vacciné. Parce que du coup, l'enfant va pouvoir être exposé à tout un tas de choses. D'ailleurs, rassurez-vous, les enfants... quand les parents ne sont pas derrière, hein, ils bouffent des scarabées. Hein. Moi, le mien, j'en ai un de 2 ans et demi à la maison, il a bouffé un scarabée l'autre jour. Bon. Mais c'est normal. C'est normal parce que les enfants portent tout à la bouche. Mais ça fait partie des gestes d'autocontamination. Alors, on va éviter effectivement qu'ils bouffent n'importe quoi, c'est sûr. Mais on le vaccine. Comme ça, on enlève spécifiquement l'accès à un certain nombre de choses, comme la polio par exemple, dont on ne veut pas. Donc les vaccins, c'est quelque chose, voilà. Ensuite, en tant qu'adulte, on va éviter certains gestes, mais on ne va pas bêtement, enfin, je veux dire, quand ça tombe par terre dans la cuisine, à moins que vous rinciez votre cuisine avec des produits toxiques, ça se mange. Donc en plus, les microbes, pour monter sur un morceau qui vient de tomber, ils ne sautent pas. Hein. Donc, vous voyez, on a tout un tas de gestes. Alors, aussi, on a des gestes donc, qu'il faut limiter, comme les gestes de nettoyage. Les savons, jamais bactéricides, ça n'a pas de sens. Les douches, pas forcément savonnées. On peut avoir des douches frottées, qui enlèvent beaucoup moins de microbes, et avoir recours une fois sur deux à la douche savonnée. D'ailleurs, une douche tous les jours, ce n'est pas hygiénique. C'est peut-être propre au sens culturel, hein, puisque la propreté, c'est culturel. Mais ce n'est pas hygiénique au sens technique. Donc, il y a les choses qu'il ne faut pas faire, se laver trop souvent et avec des produits trop agressifs, laver trop ses aliments, cuire tout, ne pas manger assez de produits fermentés. Et puis, par contre, il y a aussi les carottes. Alors, les carottes, c'est quoi? C'est les choses qui vont aider le microbiote à se développer. Parce que là, je dis pas de bâton, mais il y a aussi les carottes. Alors, les carottes, il y en a deux sortes de carottes principaux. Le premier, c'est les fibres. On vous dit qu'il faut manger des fibres, que les Français ne mangent que la moitié de la ration de fibres recommandée par jour. Pourquoi? Parce que dans les fibres, il y a plein de molécules de polysaccharides complexes qui ressemblent aux oligosaccharides du lait maternel. Et on vous dit qu'il faut manger des fibres parce que ça améliore le transite. Et ça, moi, ça me fait toujours beaucoup rire parce que c'est vrai, mais c'est un des effets tout à fait mineurs parmi tout un tas d'effets beaucoup plus importants. Ça permet de nourrir tout un tas de microbes différents. Et plus vous avez des fibres d'origine variée, donc plus tu vas avoir des légumes et des fruits différents, plus tu vas nourrir de microbes différents. Et ça, ça entretient la diversité, ça entretient la possibilité de présence et de présence multiple parce que vous amenez des ressources différentes. Et donc, ça, ensuite, ça, c'est bien connu pour améliorer tout un tas de choses. L'adage anglais « One apple a day is keeping the doctor away » a reçu des preuves statistiques. Alors, il y a des facteurs confondants, c'est vrai. Mais le fait de manger des fibres, ça permet d'entretenir le microbiote, et il faut en manger beaucoup et diversifier. Et la deuxième chose, donc là je viens de décrire deux effets, hein, l'effet probiotique qui consiste à manger des choses contaminées pour être colonisé, et l'effet prébiotique qui consiste à manger des aliments qui vont entretenir la diversité microbienne. Puis je vous décris un troisième effet peu connu, que moi j'appelle parabiotique, pour continuer par les choses qui commencent par un P et qui finissent par biotique. C'est de manger des aliments fermentés. On s'aperçoit qu'en fait, les aliments fermentés n'amènent pas tellement... Ce n'est pas un effet probiotique. Les microbes des aliments fermentés ne s'installent pas dans le tube digestif. Parce que quand vous vivez dans une choucroute, le tube digestif, ce n'est pas fait pareil. Par contre, en passant, ils modifient le fonctionnement du microbiote résident et ils l'orientent dans une composition et des modes de fonctionnement plus favorables, notamment moins de bactéries productrices de H2S et de choses qui entraînent des états pro-inflammatoires, plus de bactéries productrices de butyrate, qui est un régulateur du système immunitaire. Bref, il faut manger fermenté, non pas pour s'inoculer les bactéries et les champignons des aliments fermentés, mais parce que c'est un effet bénéfique sur le fonctionnement du microbiote. Effet probiotique, je ne mange pas que stérilisé, effet prébiotique, je mange des aliments pour mes microbes, et effet parabiotique, je mange des aliments fermentés pour réguler le fonctionnement de tout ça.
Merci beaucoup. Bien, ben encore une fois, merci.
Non, merci de votre attention, surtout.
Et puis, écoutez, pour tous les autres, vous allez vous diriger vers la sortie. Voilà.